Vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Il y avait du soleil, alors je suis descendu.
Il y a du soleil, il y a des nanas,
Cinérama.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Je ne m'attarderai pas en vaine palabre, je serai bref et précis, je ferai feu à bout portant.
Tu pars pas en vacances?
Non, pourquoi?
Pas possible.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
C'est le seul point noir au tableau.
Je m'en fous.
Tout l'été, Cinérama, blind test et actualité du cinéma.
Ouais, jamais très original dans ces moments-là, tu sais.
This is Cinérama.
Bonjour, c'est Cinérama, encore une émission avec un blind test et puis une série sur les compositrices femmes. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et tu nous as choisi encore une compositrice britannique.
Et oui, Jocelyn Pook.
Et tu nous parleras aussi d'un film qui fait partie des plus grosses copies actuellement en salle.
Et ce qui est probablement le blockbuster de l'été, c'est le Mission Possible Dead Reckoning Part 1 avec Tom Cruise.
Mais c'est peut-être parce que tu as oublié le Oppenheimer de Christopher Nolan.
Mais qui peut combattre Tom Cruise si ce n'est une bombe atomique? On verra.
Nous ferons les comptes à la fin de l'été. Nous allons aussi parler d'un réalisateur danois, c'est Lars von Trier, puisque ses films sont ressortis sur les écrans depuis le 12 juillet. Ça donnera l'occasion de rediffuser un blind test que nous avions fait autour de la filmographie du réalisateur danois. Mais nous commençons cette émission avec Tom Cruise qui reprend du service pour Mission Impossible 7. Nous en parlons maintenant dans Cinérama.
Bah oui, c'est le film et le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Nos vies sont la somme de nos choix. Et nous ne pouvons échapper au passé. Ethan, cette mission risque de vous coûter très cher.
Et oui, de 7 pour Tom Cruise et de 3 pour Christopher McQuarrie. Alors, enfin, 3,5 pour McQuarrie et 7,5 pour Cruise. Car Mission Impossible, ce n'est pas qu'une saga devenue en rouleau compresseur pour sa star, c'est également désormais une histoire bien entérinée d'amis et de familles cinématographiques. Alors, outre le réalisateur et son acteur principal, c'est aussi le retour des seconds rôles comme ceux de Vince Rhame, Simone Pegg ou Rebecca Ferguson qui continuent à former les piliers solides de la série cinématographique. Alors, tout ce petit monde approuve la toute-puissance d'une formule hollywoodienne quand elle est bien huilée et surtout, faite avec respect. Cet aspect familial marche dans tous les sens car outre le fait de donner envie au public de venir voir chaque aventure de l'équipe comme on retrouverait de vieilles connaissances, c'est aussi la réussite d'une formule qui prône l'esprit d'équipe, la fameuse équipe de Mission Impossible la série, et le pied de nez à d'autres sagas à tendance blockbuster qui vantent les mérites de la famille mais qui s'entre-déchirent en promo comme les ridicules représentants de la tout aussi ridicule saga Fast and Furious. Bon, dans tout ça, une fois que la mission est acceptée, qu'est-ce qu'elle vaut ?
Le monde change. La vérité s'évapore. La guerre est à nos portes.
Ça fait longtemps, cher ami. Vous n'avez aucune idée de la puissance que je représente. Qui connaît votre histoire. Qui en connaît la fin.
Mission Impossible Dead Reckoning Partie 1 de son nom complet, pouvait faire peur à première vue. Parce que si on a toujours à peu près bien aimé les films de la saga, il faut quand même dire que la qualité des scénarios était à échelle variable, surtout les deux derniers, et que le risque de tout cacher derrière les énièmes prouesses spectaculaires de Tom Cruise pouvait laisser craindre un petit peu du pire. Parce qu'après tout, nous sommes en phase d'une sixième suite, ou mission, si vous préférez, et même si on est depuis plus de 20 ans dans la logique d'un James Bond où il pourrait y avoir autant de films que de causes à régler dans le monde impitoyable d'Ethan Hunt, que reste-t-il ou à faire lorsque sa star a franchi le cap symbolique des 60 ans? Raté, les esprits chafouins en seront bien maris. Mission Impossible 7 et demi réussit l'audace d'accrocher d'abord pour son scénario plus que pour les moments de bravoure longuement médiatisés qui ont servi d'argument de vente principale. Alors ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas superbes, mais le vrai tour de force est là. Dead Reckoning Partie 1 renoue avec tout ce que l'on adore dans les films d'espionnage, à savoir une manière ludique et décomplexée de parler des problèmes contemporains à leur production. En faisant du principal antagoniste une intelligence artificielle qui est devenue autonome, le nouveau cauchemar des des plus puissantes nations du globe, bah, le film tape en plein dans le mille de ce qui préoccupe les gens, les chercheurs et beaucoup d'autres professions à l'heure actuelle. On vous rappelle que le puissant syndicat des acteurs américains vient tout juste de se déclarer en grève pour soutenir celui des scénaristes, mais ont entre autres comme sujet de préoccupation majeure l'usage qui risque de devenir répété d'intelligence artificielle pour écrire des scénarios et manipuler des visuels d'acteurs scannés préalablement. Alors sur ce simple fait, Tom Cruise, le grand Magneto, derrière sa saga phare, prouve encore une fois de plus qu'il avait le nez creux juste après la sortie triomphale de Top Gun Maverick l'année dernière. S'il défendait dans ce dernier la magie du cinéma, la volonté de croire au star system, de vouloir s'émerveiller devant un grand spectacle qui veut vous en donner pour votre argent, dans Mission Impossible 7,5, il en remet une couche sur le talent d'une équipe motivée et prône le tout humain face à un business qui déshumanise tout et en première ligne l'art qui considère être comme un pur produit consommable. Alors vous penserez peut-être que c'est ironique venant d'une sixième suite, mais ce qu'il faut y voir, c'est au contraire une volonté de cinéma pur, combattant un cynisme qui est en train, par exemple, de coûter cher à Disney, en plus de nous avoir pourri plus de 10 ans de grands spectacles.
Quel est ton objectif? Quel est ton objectif ultime?
Vos vies compteront toujours plus à mes yeux que la mienne.
Aucune de nos vies ne doit compter plus que cette mission.
Je ne suis pas d'accord.
Ce n'est donc pas étonnant que ce rôle de rebelle soit joué par Tom Cruise et plus que jamais, il fait corps avec son personnage et le résultat est particulièrement réjouissant. Alors il y a bien longtemps qu'Hollywood n'avait pas produit de film aussi long, parce que ça dure quand même 2h45, mais sans qu'on ne s'y ennuie une seule seconde. Tout est ici millimétré pour notre plaisir et le plus incroyable dans tout cela, c'est que ce n'est que la première partie. Alors ce Mission Impossible est également l'occasion pour Tom Cruise de prouver encore une fois de façon très informelle qu'il a compris que le sens de l'aventure ne venait plus depuis longtemps d'un cinéma qui peine à se renouveler et d'un archéologue grabataire, coucou Indy 5 qui est en train de se planter sévère, en citant une fois de plus l'une de ses sources d'inspiration en reprenant pour mieux l'augmenter, plusieurs scènes d'action anthologique du jeu vidéo Uncharted mettant en scène le chasseur de trésors Nathan Drake, chose qu'il avait déjà faite auparavant avec la momie. Alors il fallait bien un héros pour sauver l'été des Transformers ou autre déception à 300 millions de dollars de budget, et encore une fois, c'est Tom Cruise qui prouve qu'il mérite ses lauriers. C'est drôle, c'est palpitant, c'est excitant, en un seul mot, foncez.
Alors avant de voir Mission Impossible 19 fabriqué, scénarisé par ChatGPT, le 6e ou 7e version, et avec Tom Cruise bien numérisé, vous pouvez aller voir ce Mission Impossible 7 en salle depuis le 12 juillet. Les films de Lars von Trier sont ressortis le 12 juillet sur les écrans. C'est pour Marine l'occasion de nous parler du réalisateur danois.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Cet été, à partir du 12 juillet, vous pourrez redécouvrir en salle l'intégralité des films de Lars von Trier, de Element of Crime jusqu'à The House, sa Jack Built, en passant par Breaking the Wave. Que des pures comédies, des moments de plaisir décomplexés pour rire en famille ou entre amis. Passer des vacances détendues. Eh bien, figurez-vous que je ne suis pas si ironique que cela, car le célèbre et controversé réalisateur danois peut parfois glisser vers la comédie et ça n'est que pour mieux dépeindre la noirceur et l'absurdité de notre monde, comme on va le voir dans cette chronique. Lars von Trier, de 1984 à 2022, c'est environ 17 films et il se pourrait qu'il n'en fasse pas beaucoup d'autres puisque sa société de production a annoncé il y a quelques mois qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Alors commençons pour rappeler l'immense œuvre aussi inventive que pessimiste de Lars von Trier par parler de sa trilogie dite de l'Europe, dont d'ailleurs l'une des caractéristiques est que chacun de ses films sont coproduits par de nombreux pays d'Europe différents. Une trilogie qui, par le registre cinématographique auquel elle appartient, par son esthétique générale et ses thématiques très particulières, aura toujours une place à part dans la filmographie de Lars von Trier. Cette trilogie pose les jalons d'un cinéma tourmenté et s'attache à dépeindre les principaux maux qui rongent l'Europe, selon Lars, le fantôme du nazisme et le capitalisme mortifère. Lars Trier, c'est initialement son nom, avant qu'il ne décide d'ajouter le von, devenant Lars von Trier, n'a que 28 ans quand il réalise son premier film, Element of Crime, un film culte, mais ne nous mentons pas que peu de gens quand même ont vu et apprécié. Element of Crime retrace sous forme kaléidoscopique l'enquête d'un inspecteur sur les traces d'un tueur d'enfants, inspecteur qui va lentement glisser jusqu'à se confondre avec le tueur. L'esthétique nazie est régulièrement sous-entendue dans Element of Crime, un film qui baigne d'ailleurs dans une image rougeoyante et jaunâtre, habitée par un protagoniste qui va donc se confondre avec le mal qu'il traque, une métaphore d'une Europe encore hantée par les crimes du nazisme. Suivra en 87 Épidémique, un pur film méta dans lequel Lars von Trier joue un réalisateur, une critique lugubre du capitalisme qui se déploie telle une épidémie par les mêmes moyens que ceux utilisés pour le combattre. Lars von Trier avait déjà conscience qu'en faisant un film qui dénonce cette idéologie, il allait devoir, pour la promotion du même film, se soumettre à des outils de communication et de diffusion. On rappelle quand même que Lars von Trier est né dans une famille communiste de Copenhague. La trilogie se clôt ensuite avec Europa en 91, un film qui s'octroie une distribution mais alors complètement ubuesque. Jean-Marc Barr, Udo Kier, mais aussi Eddie Constantine et Max von Sydow. Un film qui prend place dans l'Allemagne bombardée de l'après-guerre.
You will now listen to my voice. My voice will help you and guide you still deeper into Europa. Every time you hear my voice, with every word and every number, you will enter a still deeper layer, open, relaxed and receptive.
En dehors de cette trilogie très sombre, cette reprise est également l'occasion de redécouvrir trois films de Lars von Trier qui peuvent s'apparenter à un certain humour, même si on demeure bien sûr très loin des comédies de Philippe Lachaud, Les Idiots, Le Directeur et The House That Jack Built. Les Idiots, que Lars von Trier réalise en 98, annonce d'emblée la couleur. C'est un, je cite, « film par des idiots, sur des idiots, pour des idiots ». Voilà, Les Idiots, c'est le premier film que Lars von Trier fera selon les principes du dogme 95 qu'il a alors créé avec Thomas Vinterberg. On rappelle quelques principes du dogme, des prises de son direct, une caméra portée, pas de film de genre, pas d'accessoires rapportés, bref, une façon de faire du cinéma économique radical et ancré dans le moment présent. Dans Les Idiots, un groupe de personnes profondément anti-bourgeoises passent leur temps à rechercher leur idiot intérieur, celui qui leur permettrait de se défaire des conventions sociales, et pour ce faire, eh bien, ils vont se comporter en société comme s'ils étaient handicapés mentaux.
Ils sont à la recherche de leur idiot intérieur, Karen. Personne ne le fera pour eux. Tu vois, quel est le sens d'une société qui devient de plus en plus riche, alors que ça ne rend pas les gens plus heureux? À l'âge de Pierre, les idiots mouraient. Ça ne doit pas nécessairement être comme ça de nos jours.
Alors, pas sûr que le pitch de cette comédie passerait en 2023. Une comédie absurde et dérangeante, donc, qui sera prolongée en 2006 par Le Directeur. Lars von Trier réalise une comédie, annonce la bande-annonce, comme si un tel argument était si surprenant qu'il allait faire venir les spectateurs en masse. C'est en fait plutôt par provocation que le réalisateur danois décide d'aller vers cette comédie qui n'est pas franchement réussie, mais qui reste quand même un film de Lars von Trier, donc c'est-à-dire 10 fois meilleur que n'importe quelle comédie avec Christian Clavier. Avec ce film, Lars von Trier, pourtant fort attaché à la photographie dans ses films, s'attaque à un lieu très peu cinégénique, celui de l'entreprise. Un lieu fermé qu'il filme presque systématiquement au travers de décadrages pour raconter le coup monté d'un homme qui embauche un comédien pour jouer le PDG de la boîte qu'il a lui-même montée et qu'il compte bien revendre. De fait, The Director fut un échec commercial, le film ne réalisant que 3 millions de dollars de recettes. À titre indicatif, Dogville a engrangé, lui, près de 17 millions, avec des décors en plus dessinés à la craie par terre, qui n'ont pas dû coûter bien cher. Il faudra attendre ensuite 2018 pour qu'un peu d'humour rejaillisse dans le cinéma de Lars von Trier après une décennie sacrément déprimante, mais qui allait de pair avec l'état mental du réalisateur. Ce sera The House That Jack Built qui sera présenté hors compétition à Cannes en 2018. Dernière fois que Lars von Trier aura foulé le tapis rouge après 10 ans de polémiques, de boycotts et de provocations. The House That Jack Built, qui raconte la cavale d'un tueur en série entrecoupé de plans d'animaux ou de dessins animés, est un film d'une grande brutalité qui nous met face à nos paradoxes. Comment ne pas rire à la vision de ces scènes à la fois violentes et ridicules, et en même temps, comment parvenons-nous à rire face à ce déchaînement de violence? On parle en effet de meurtre d'enfants, de découpage de seins. La violence est très extrême et très crue. En revanche, elle n'est jamais graphique, ce qui remet en question une supposée complaisance de la part du réalisateur. Et puis The House That Jack Built, et c'est également l'occasion de découvrir le potentiel comique du Uma Thurman middle-age et surtout de redécouvrir Matt Dillon, l'ex-star des 90s qui de son propre aveu n'a pas du tout compris pourquoi Lars von Trier lui avait proposé ce rôle puisqu'il ne s'était jamais croisé auparavant. Car Lars von Trier ne voyage pas, il a la phobie de l'avion. Comme quoi on peut réaliser des films des plus cauchemardesques, mais avoir peur d'emprunter l'un des 93 000 vols qui se font tous les jours.
Faisons une petite pause avec un blind test que nous tirons de nos archives de Cinérama. Il concerne le réalisateur danois, évidemment, Lars von Trier.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Alors, c'était pas évident de trouver des versions françaises hein, pour les films du réalisateur danois. Comment ?
On va peut-être pas reconnaître.
Oh, si, quand même, je pense. Notamment, celui-ci, il est facile.
678. La tombola des haricots. Personne n'a deviné combien il y en avait dans la bouteille. Non, en effet. Moi, je le sais. Il y en avait 678. Bon, peut-être, mais... Mais qu'est-ce que ça prouve ? Que je sais les choses. Et quand je dis qu'on est seul... On est seul. Il n'y a de la vie que sur la Terre.
Alors, c'était donc facile, comme je l'avais dit, non, Manu ?
Oui, c'était Mélancolia.
Voilà, ces deux sœurs, Charlotte Gainsbourg et Kirsten Dunst, qui avaient remporté d'ailleurs le prix d'interprétation. Mmh. Et c'était la troisième fois qu'une actrice de Lars von Trier remportait le prix d'interprétation à Cannes. Lui qui est accusé de harcèlement vaguement.
L'un n'empêche pas l'autre, voilà. Elle peut avoir été très bonne devant la caméra après avoir été harcelée.
Voilà, mais non, c'était juste pour dire que c'est comme ça qu'il se défend, hein, que le harcèlement, bon déjà, il... Non, c'est qu'il exige effectivement beaucoup de ses actrices, effectivement, et de ses acteurs aussi, et donc ça se voit à l'écran. Allez, deuxième extrait qui, à mon avis, est aussi facile.
Où est votre famille ?
Je n'ai pas de famille. Je n'avais plus que mon père. Mais ces gangsters me l'ont pris.
Et si je vous disais que vous pouvez rester ?
Ici ? Même si vous le vouliez, ce ne serait pas possible. C'est une toute petite ville. Il faut que je me cache. Les gens finiraient par se poser des questions.
Il n'y aurait peut-être pas de problème, s'ils sont tous d'accord pour vous aider.
Vous voulez dire que tout le monde dans cette ville est comme vous ?
Ce sont des braves gens. Ils sont l'honnêteté même. Ils ont tous été un jour dans le besoin, eux aussi. Il se pourrait qu'ils vous refusent leur aide, mais... Je crois que ça vaut le coup de leur poser la question.
Alors, Marine, tu l'as trouvé.
Dogville.
Oui.
Avec Nicole Kidman.
Oui, en 9 chapitres avec un décor minimaliste, pour ainsi dire, presque pas de décor. Oui. Film de 2003, troisième extrait.
Les autres personnes qui ont déjà visité la maison ont eu l'air d'y être plutôt opposées.
Opposées ?
Au fait qu'il y ait une institution au bout de la rue.
Ah, ça ?
C'est une curieuse façon de penser.
Non, oui, je ne crois
oui,
pas.
Même de nos jours, on rencontre ce genre de gens.
Oui.
C'est très étrange.
Oui. C'est une assez vieille maison. Enfin, précisément, ça se trouve où, je veux dire, elle est où ? Enfin, elle est loin ?
C'est la maison d'à côté.
Ce sont vos voisins ?
Oui. Et vous savez quoi ?
Ok.
Quand la maison était vide, ils ont pris l'habitude de venir ici. Bien sûr, ça ne doit pas nécessairement continuer. Mais ils aimaient bien ramasser les noix, des choses comme ça. En automne, ils viennent ramasser les noix.
Alors, il s'agit...
Et c'était les idiots.
Donc, les idiots, hein, ce sont des petits bourgeois qui s'amusent à retrouver l'idiot qui est en eux. C'était un film réalisé conformément au manifeste Dogme 95. Et c'est un film donc, qui est sorti en 98. Quatrième extrait.
Vous devez pourtant admettre que la fourchette à gâteau est un outil pratique dans son genre. C'est un peu le croisement entre un couteau et une fourchette. L'idée, c'est que vous êtes censé réussir à tenir l'assiette d'une main, couper le gâteau de l'autre et ensuite utiliser la fourchette pour le manger. Ça n'est pas féminin, tout au plus bourgeois. On raconte que les bolcheviks, lorsqu'ils ont ravagé la Russie, séparaient les adultes des enfants et pour distinguer la bourgeoisie du prolétariat, ils prenaient un des enfants et avant d'incendier une maison, ils l'envoyaient à l'intérieur pour qu'ils vérifient s'il y avait bien des fourchettes à gâteau.
Alors, c'est caractéristique, bien en tout cas, de ces deux derniers films.
Oui, c'était Nymphomaniaque, mais le 1, c'était la première partie.
Oui, je crois que c'était le 1, effectivement. Film sorti en 2013, donc en deux parties. En France, il est sorti en janvier. Dernier extrait de ce blind test spécial, Lars von Trier.
Les livres que tu as consultés pour faire tes recherches font l'inventaire des atrocités commises de tout temps contre les femmes. Et toi, tu y vois des preuves de la malignité des femmes? Tu étais censé faire la critique des idées professées dans ces textes, c'était le sujet de ta thèse. Et au lieu de ça, tu les fais tiennes? Tu te rends compte de ce que tu dis là?
Fais pas attention. Je sais pas pourquoi je dis ça.
Alors, ça a été trouvé, Manu?
Antichrist.
Film de 2009 qui a permis à Charlotte Gainsbourg de remporter le prix d'interprétation donc à Cannes. Il a été pressenti d'ailleurs pour remporter la Palme d'Or, mais le réalisateur James Gray, visiblement, qui faisait partie du jury, s'y est opposé. Bon, c'est vrai que c'est un film peut-être un des plus polémiques de
sur sa misogynie
du réalisateur danois.
Alors que pas du tout, en fait, il n'est pas du tout misogyne.
Et à noter d'ailleurs qu'il a été interdit au moins 18 ans en 2017, ça je ne le savais pas, suite aux demandes de l'association Promouvoir, et le Conseil d'État a validé cette demande. Donc maintenant il est interdit au moins 18 ans, d'ailleurs comme la deuxième partie de Nymphomaniaque.
Comme la vie d'Adèle aussi.
Et la vie d'Adèle, oui. Allez bam. On en termine juste pour vous demander, d'après vous, quel est le film qui a eu bien le plus de succès en France
parmi... Dancer in the Dark.
Oui. C'est ça. Avec, c'est le seul d'ailleurs qui a dépassé le million, avec 1 200 000, à peu près 200 000 personnes, spectateurs qui l'ont vu.
This is Cinerama.
Après ce retour dans nos archives, on retrouve Marine qui nous parle à nouveau de Lars von Trier, dont la filmographie ressort en salle.
L'une des principales questions qui hantent les critiques et le public devant la filmographie foisonnante de Lars von Trier, c'est... Le réalisateur est-il misogyne? Dans beaucoup de ses films, Lars von Trier met en scène un personnage central féminin qu'il place en martyr. Le sacrifice de ses héroïnes prennent la forme d'injustice, de sévices sexuels et sont souvent montrés de façon doloriste, voire quasi sadique. Dans Breaking the Wave, le personnage, interprété par Emily Watson, se retrouve à devoir, pour le plaisir de son mari handicapé, coucher avec des hommes afin qu'ils se nourrissent par procuration de ses récits, jusqu'à ce qu'elle devienne, elle, la paria de son village. Dans Dogville, Grace, interprétée par Nicole Kidman, va progressivement devenir l'esclave sexuelle et ménagère d'un village entier. Dans Dancer in the Dark, Palme d'Or en 2000, la chanteuse Björk incarne Selma, une ouvrière pauvre, prête à tous les sacrifices pour que son fils retrouve la vue. Dans Nymphomaniaque, Charlotte Gainsbourg perd son fils et sombre dans la culpabilité. Et dans Mélancolia, Kirsten Dunst joue une jeune mariée en pleine dépression, incapable de s'occuper d'elle-même, qui va finir par être sacrifiée avec la terre entière. Lars von Trier semble ressentir une sorte de plaisir à faire s'effondrer devant sa caméra les femmes que le monde encense habituellement, telles que Björk, qui devait ne composer que la bande originale de Dancer in the Dark, avant que Lars von Trier ne la persuade d'endosser le rôle principal. Elle n'a d'ailleurs plus jamais voulu refaire de cinéma par la suite. Nicole Kidman, qui était l'une des stars les plus en vue lorsqu'elle a tourné dans Dogville. Et puis bien sûr, Charlotte Gainsbourg, qui sombre dans la folie dans Antéchrist, film qui avait énormément divisé lors de sa projection à Cannes en 2009. Alors, il y a plusieurs contre-arguments possibles que l'on peut opposer à cette soi-disant misogynie. Et le mieux reste évidemment pour vous d'aller vous faire votre propre avis en salle. D'autant que les films dont on parle ici sont vraiment, à mon sens, les plus réussis du cinéaste. Déjà, eh bien, ces personnages, même féminins, sont souvent des prolongements de Lars von Trier lui-même, qui ne semble pas être quand même la personne la plus heureuse du monde. Par exemple, le personnage de mariée dans Mélancolia, qui est si dépressive que la perspective de voir la Terre percutée par une autre planète lui apparaît comme une certaine délivrance, est clairement un reflet fictif du réalisateur. Et plusieurs de ses films, Antéchrist, Nymphomaniaque, Dogville ou Manderley, montrent des personnages féminins qui se vengent, le meurtre ou la torture apparaissant souvent comme la façon de reprendre le pouvoir sur les hommes. Et puis la violence dont les femmes sont victimes dans le cinéma de Lars von Trier, eh bien, dénonce toujours une entité patriarcale qui est en place dans le monde réel. L'esclavagisme dans Dogville, l'obscurantisme religieux et ses dérives misogynes dans Breaking the Wave, les erreurs judiciaires et le classisme dans Dancer in the Dark. Si les actrices choisies pour incarner des martyrs sont toujours des personnalités célèbres, eh bien il faut aussi reconnaître que les films de Lars von Trier leur permettent de se montrer tels qu'on ne les a jamais vus. Il est d'ailleurs l'un des cinéastes qui a le plus permis à des comédiennes de recevoir des prix. Björk a reçu le prix d'interprétation à Cannes, ainsi que Charlotte Gainsbourg et Kirsten Dunst, ce qui semblerait prouver qu'en dehors du cinéaste danois, eh bien tout le monde aime bien voir des femmes qui souffrent.
Le chaos règne.
Cet extrait n'a l'air de rien, mais il s'agit d'un renard qui nous parle avec cette grosse voix. C'est dans Antéchrist, qui fait partie des films de Lars von Trier qui ressortent sur les écrans. Certains cinémas sur le territoire en profitent, mais il y a aussi la VOD et les DVD Blu-ray. Nous poursuivons la série sur les femmes compositrices durant tout l'été dans Cinérama. Et bien pour aujourd'hui, c'est Jocelyne Pouc dont tu vas nous parler, Guillaume.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinérama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Allez, enfilez vos masques et déshabillez-vous. La Britannique Jocelyne Pouc est peut-être l'une des compositrices les moins connues dont nous allons parler tout au long de cet été. Mais son premier coup d'éclat pour le cinéma, lui, va être un coup de tonnerre. C'est en effet elle qui est derrière les sonorités planantes et inquiétantes d'Eyes Wide Shut, l'ultime film de Stanley Kubrick. Ce morceau, nommé Masked Ball, trahit la formation de la dame, diplômée de la Guild Old School of Music and Drama, où elle a étudié l'alto, l'instrument dont elle a joué avec de nombreux artistes, comme The Communards, Laurie Anderson, Massive Attack, Ryuichi Sakamoto ou encore Peter Gabriel. Alors 2 ans plus tard, en 2001, elle participe à la BO de Gangs of New York, le film charcuté, maudit, de Martin Scorsese, en livrant le morceau Dionysus, dont voici un extrait. Fort de ses titres hollywoodiens, la native de Birmingham va choisir une trajectoire quelque peu étonnante, puisqu'elle décide de servir la France et celle d'un cinéma d'auteur intimiste. C'est ainsi qu'elle rejoint la même année que le Scorsese, la distribution de « Comment j'ai tué mon père » d'Anne Fontaine, et dont voici le très beau thème. La même année, elle travaille pour Laurent Quintet et son bouleversant L'emploi du temps. Alors ce morceau sera réutilisé dans le documentaire Le mystère Marilyn Monroe, conversation intime en 2022. Jocelyne Pouc varie les plaisirs du documentaire Les Invisibles de Sébastien Lifshitz en 2012 sur la condition des homosexuels ou encore le drame The Wife avec Glenn Close et Jonathan Pryce en 2017. On se quitte sur la musique lyrique de Rome in Rome, la belle romance entre les sublimes Elena Anaïa et Natasha Korovenko, filmée par Julio Medem en 2010, mais dont l'accompagnement musical, dont ce morceau intitulé Liberame, n'est, vous allez le voir, pas en reste. Thank you.
Merci Guillaume. La semaine prochaine, tu reviens. Alors, tu quittes cette fois-ci eh bien, les compositrices britanniques.
Et oui, là, on va aller en Grèce avec Eleni Karendrou, hein, qui est la compositrice attitrée de Théo Angelopoulos.
Au revoir. Ça s'impose.
Mais pour quelle raison?
Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je ne connais pas la réponse moi-même. Comme vous êtes bizarre.
Oui,
c'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie!
On se retrouve la semaine prochaine avec deux films qui font déjà sensation en salle. C'est Barbie et Oppenheimer.